Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman d'Yves Tanret. Il n'échappera à personne que la voix que vous entendez n'est pas celle inimitable d'Yves Tanret, le créateur et l'animateur de cette émission qui fête cette année ses 10 ans d'existence, mais celle de son fidèle chroniqueur Frédéric Gournay, auteur de Métaphysique du rock. Yves, on sait que tu nous écoutes, sache qu'on pense très fort à toi et qu'on espère te revoir très vite. Dans ce numéro de La vie est un roman, nous recevons Stan Cuesta, musicien, journaliste, rock, auteur et maintenant écrivain, qui sort chez Antidata, La musique a gâché ma vie, un recueil de nouvelles assez autobiographiques dont on peut se demander si ce n'est pas plutôt un roman à deux faces. Bonjour Stan.
Bonjour.
D'où vous est venue la nécessité ou le désir de ce livre ?
Alors, j'écris depuis longtemps pour moi, mais je n'avais jamais pensé spécialement publier. En fait, ça vient d'une frustration, parce que je viens d'un monde où, dans la presse rock, comme on dit ça, il y avait des ambitions littéraires. Moi, j'ai été nourri au rock et folk des années 70 et 80, parce que je suis un ancien maintenant. Et j'ai grandi avec des gens comme... Philippe Garnier, Yves Adrien, des gens comme ça, qui étaient à la fois des journalistes de rock, enfin des chroniqueurs, et aussi des écrivains. Voilà. Et notamment aussi Philippe Paringo, qui était le rédacteur en chef historique de Rock et Folk, qui était des très bonnes plumes. Voilà. Et c'est des gens qui m'ont ouvert à la littérature. Moi, je viens de la musique, mais grâce à Garnier, par exemple, lui, il a fait découvrir en France Bukowski, Hubert Selby, des gens comme ça. C'est des gens qui ont été très importants dans une certaine littérature, un peu, on disait underground à l'époque, etc. Et ça se sentait dans leurs écrits sur la musique, dans Rock et Folk. Et moi, j'ai commencé comme ça. C'était l'héritage de ce qu'on appelle le nouveau journalisme, c'est-à-dire Hunter Thompson, Tom Wolfe aux États-Unis, qui mettait le journaliste au centre de l'action, quitte des fois à complètement oublier l'action elle-même. C'est le cas de Las Vegas Parano, par exemple, enfin, des bouquins qui sont assez fabuleux. Et j'adorais ça, c'est-à-dire que je faisais des reportages sur des artistes, mais en même temps, je racontais la ville où j'étais, ce qui m'arrivait, etc. Donc c'était une façon de parler un peu, pas de moi, mais d'un contexte, disons, pas que de musique. Et puis, il se trouve qu'à un moment, toute la presse, mais en particulier Rock et Folk et Philippe Manoff qui a décidé ça, alors qu'il venait lui-même de cette génération-là, on dit maintenant l'époque a changé, on ne peut plus parler à la première personne, il faut arrêter ça. Et donc, vous le remarquerez, tous les journaux disent plus « je », quasiment, mais que ce soit Télérama, Libé, enfin tout ça, avec, on dit, une espèce de « on ». Qui est une espèce de truc de faux cul, parce qu'en fait, le journaliste qui dit « on », en fait, il parle de lui, mais bon, voilà. Et donc, on n'a plus le droit, il a fallu avoir une espèce de subjectivité pour traiter de la musique. Avec ça, il y a eu moins de reportages, moins de choses personnelles, etc. Et donc, je me suis retrouvé frustré de cette part de... Parce que moi, j'aime quand quelqu'un me prend à bras-le-corps. Je n'ai jamais autant aimé des reportages sur la musique que quand la personne se mettait au centre de l'action, parlait de pourquoi elle aimait ce groupe, etc. Je crois que la subjectivité n'a pas tellement de mise dans cette histoire, quoi. L'objectivité, pardon. J'aime la subjectivité dans les arts, quoi. Voilà, et donc, à force, c'est pas un bouquin sur la musique à proprement parler, mais la musique est le beigne de partout, quoi.
Alors, je l'ai dit, hein, c'est très autobiographique. Mmh. Vous évoquez d'où vous venez, c'est-à-dire... où vous avez grandi, à Créteil en l'occurrence, avec pour origine un père espagnol inconnu de vous, et sous la figure tutélaire de Jean Ferrat. Alors, est-ce que c'était une figure de substitution ?
Non, c'est marrant, c'est parce que justement, c'est mon beau-père qui écoutait énormément Jean Ferrat. Ils étaient communistes au départ, puis socialistes ensuite. Mais enfin, Jean Ferrat, c'était un peu l'idole des communistes français, disons. Alors qu'il s'est toujours défendu, il n'a jamais eu sa carte du parti. Hein, mais ce qu'on lui reproche beaucoup aujourd'hui. Enfin, oui, il disait peut-être qu'il a un peu mauvaise presse par rapport à d'autres chanteurs de cette époque-là, à cause de ces accointances-là. Mais moi, je ne sais pas du tout. J'étais gamin, enfin, je veux dire, dans les années 60. Mais j'ai grandi avec le son, la voix de Jean Ferrat, quoi. Voilà, on n'entendait que ça chez mes parents, quasiment. Enfin, il y a un peu de Ferré, un peu de Brassens aussi, mais essentiellement Jean Ferrat. Donc, quand j'entends ces chansons, j'ai les larmes qui me montent aux yeux, alors que ce n'est pas du tout la musique que je devrais aimer, puisque moi, après, j'ai découvert les Stones, enfin, des trucs qui n'avaient rien à voir, quoi.
Alors, ce père inconnu espagnol nourrit chez l'enfant un imaginaire de corrida et de flamenco.
Ça, c'est la première nouvelle. En fait, j'ai écrit ces nouvelles une par une sur une assez longue période. Et pour me forcer à les écrire, j'ai participé à des concours ou à des appels à texte. Et ça, c'était un concours qui s'appelle le Prix Hemingway, qui existe toujours d'ailleurs, qui est lancé par les éditions Au Diable Vauvert, que je connais bien parce que je travaille avec eux par ailleurs comme traducteur. Et ils avaient deux prix, qui est le prix de la nouvelle érotique, j'en ai fait une qui est dans le recueil, et le prix de le prix Hemingway sur la tauromachie, la corrida. Donc, un sujet assez sensible. Et Marion Mazorik, la patronne du Diable Vauvert, me disait toujours « Ah, il faut que tu participes au prix Hemingway ». Je disais « Mais écoute, moi, je n'y connais rien à la corrida. Voilà, c'est vrai que je n'avais jamais assisté à une corrida. Je n'avais pas d'opinion très tranchée sur pour, contre, etc. » Je dis « Tout ce que je peux faire, c'est faire quelque chose qui a vaguement rapport, mais qui détourne complètement le sujet. » Elle m'a dit « Vas-y ». Et voilà, et j'étais finalement dans le recueil final de ça. Et j'ai repris cette nouvelle, les deux nouvelles que j'ai écrites pour ces deux concours. Je les ai mises dans le recueil.
Alors vous dites, quand vous étiez enfant, tout le monde part en Espagne, sauf vous. Vous partez en vacances dans le Gard, oui, du côté du Quélard, des Margues et de l'Espiguette, une plage assez connue de la région. C'est dans ce sud-là que vous découvrez le rock. Free, Pink Floyd, les Who.
Parce que j'avais des grands cousins, oui, c'était dans les années 60 et 70, et j'avais des grands cousins qui avaient 8 ans de plus que moi, et qui étaient, enfin surtout un, qui était un hippie, d'ailleurs je lui consacre une nouvelle, et qui a fait sans le savoir mon éducation musicale. C'est-à-dire que ça s'est fait sans qu'il me dise rien, mais j'étais tellement fasciné par cet univers. Il avait les cheveux très très longs, il écoutait des musiques. Moi j'avais 10-11 ans, hein, j'étais dans Claude François et Johnny Hallyday, c'était ça, et plus les Sardou, Delpech, enfin toute la variété française. Et tout d'un coup, je découvre ça, je dormais dans sa chambre, il y avait des posters de Clapton, des Who, des mecs barbus avec des grands chapeaux et tout. Je me disais, mais c'est fabuleux ça, j'étais complètement fasciné par ça. Voilà.
Alors, vous avez grandi à Boulogne-Billancourt ?
Aussi, oui.
Aussi, il faut savoir, dans les années 70, c'est pas une région glorieuse.
Bah non,
on s'y ennuie beaucoup. Vous écrivez, je restais dans ma chambre et je rêvais ma vie. J'écoutais mes disques, je lisais, je vivais par procuration. Alors, c'était des années où on pouvait encore s'ennuyer.
Oui.
Et faire appel à toutes les ressources de son imagination.
Il y a beaucoup de chercheurs qui parlent de ça aujourd'hui, du fait que les enfants ne peuvent plus s'ennuyer, effectivement. On lisait, bah oui, parce qu'il n'y avait pas les ordinateurs, les téléphones portables. Est-ce que c'était mieux ? J'en sais rien. Mais c'est vrai que c'était totalement différent. Et en tout cas, je lisais des livres. J'ai un fils de 24 ans, il lit plus de livres et il est sur son téléphone. Quoi. C'est sûr que le monde a complètement changé.
Alors, il y a cette révélation du rock, hein, grâce à ce grand cousin. Il y a une autre épiphanie, entre guillemets, chez vous, c'est le cinéma.
Oui.
C'est la rencontre avec Roger Linhart.
Oui, alors ça, c'était un peu plus tard, mais bon, j'étais de toute façon fan de cinéma. J'ai l'ambition, je ne sais pas si je le ferai, de faire une espèce de livre miroir de celui-ci sur le cinéma, en fait, avec tous des souvenirs de cinéma, de cinéphile, c'est-à-dire l'époque où on courait dans Paris, parce que j'étais parisien à cette époque-là. Bon, qui est la ville du cinéma à Paris. Il faut savoir que dans le monde, c'est la ville où on peut voir le plus de films à l'affiche différents. Ce que tout le monde ne sait pas, visiblement. Et je parcourais les festivals Nouvelle Vague, les films américains indépendants des années 70. J'ai grandi dans Cassavetes, Scorsese, enfin voilà, tous ces trucs-là. Plus la musique, Easy Rider, tous les films musicaux fabuleux de cette époque-là. Et je ne sais plus quelle était la question.
C'est très bien, c'est bon signe. Donc, c'était, il y a d'un côté le rock qui est très important, qui est quand même une révélation et qui change votre vie, même si à ce moment-là, il ne se passe pas grand-chose. Mm-hmm. Il y a l'autre épiphanie qui est le cinéma. Et il faut savoir que vous découvrez ça dans les années 70.
Ouais.
Et vous avez déjà l'impression d'arriver après la bataille.
Oui, oui, ça c'était un peu à cause de ce grand cousin. Je voyais bien que c'était fini. C'était les années 70, c'était une époque de grande déception en fait, de post-68. Alors à la fois politique en France, parce que voilà, tout le monde s'était soit radicalisé, soit tombé dans la drogue. Il y a eu beaucoup de victimes dans les années 70 de ces idéaux déçus, quoi. Ceux qui ont continué leurs idéaux sont partis à la campagne, dans leurs actes, dans des communautés, etc. Mais Ça a foiré très rapidement. Et tout le monde était un peu désenchanté. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de nostalgie du tout. Et je ne suis pas du tout réactionnaire par rapport à ça en disant c'était une époque fabuleuse, etc. Parce que c'était une époque assez sombre, les années 70, où, de grands désenchantements. Et où moi, effectivement, j'avais l'impression... Bah, j'ai commencé à écouter les Beatles quand ils se sont séparés. Quoi, voilà. Et j'ai fait un bouquin sur Jimi Hendrix. Ma préface, je raconte, mon premier disque de Jimi Hendrix, c'est celui qui est paru juste après sa mort. Quoi. Donc c'est très... il y avait cette impression que les années 60 avaient été une époque fabuleuse. Bon, ce que les gens qu'ils ont vécu disent que c'était pas forcément le cas non plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fantasme des époques comme ça. Et donc, dans les années 70, je fantasmais sur les années 60 qui étaient révolues. Donc, j'écoutais énormément de musique des années 60. Mais tout le monde, d'ailleurs, c'était comme ça. Et puis, bah, aujourd'hui, on a des gamins qui ont 18 ans qui me disent « Quelle chance vous avez eu de connaître les années 70 ou 80. C'était une époque formidable. » Je dis « Bah, non, pas tant que ça. » Mais voilà, je crois qu'on a toujours une espèce de glorification du passé comme ça qui est assez liée au rock. Le rock est une musique assez nostalgique et passéiste presque d'une certaine façon.
La pop musique est morte, la révolution est morte, l'espoir et tout le reste avec, ils sont passés à autre chose. Oui, vous l'avez dit, oui, c'est...
Oui, parce que c'était à cause de ce grand cousin donc, que j'ai aimé la musique. Et ce que je raconte, c'est qu'à un moment plus tard, j'essaye de revenir vers lui parce que je suis devenu un fan de musique moi-même. Et je m'aperçois que je tombe complètement à plat parce que lui n'y est plus du tout là-dedans. Quoi. Voilà. Et donc, je continue à porter un rêve qui était un peu celui des autres d'avant. Quoi. Oui, c'est assez marrant. Mais c'est comme ça que les choses se transmettent aussi, j'ai l'impression.
Obstiné, envers et contre tout, je continuerai sur cette route qui ne mène nulle part, avec ce vieux rêve qui ne m'appartient même pas.
Oui, c'est un peu dramatique dit comme ça, mais oui, c'est vrai, c'est sur cette nouvelle Georges qui est dédiée à mon cousin. Ouais.
Vous l'avez dit, chaque génération idéalise la précédente, ouais. Mais on peut quand même parler de ces années 80 qui ont été particulièrement durs, ouais. Vous l'avez évoqué, c'était donc l'héroïne qui arrive, le cynisme, la toute-puissance de l'argent, ouais. Les médias changent, la société change, et là, pour le coup, c'est quand même beaucoup moins glorieux, parce que le rêve est mort.
Absolument, et puis dans la forme, la musique prend une forme terrifiante, parce que les machines arrivent, les boîtes à rythme, les synthétiseurs, qui sont en soi pas mauvais, hein. Il y a des très belles choses, je veux dire, c'était venu à partir de Kraftwerk et des choses comme ça, qui étaient des années 70, qu'on fait des œuvres magnifiques, mais il y a eu une espèce de surenchère du son clinquant et synthétique et dans ces années-là, qui moi m'a énormément déplu, parce que je venais d'une musique plus organique de 10 ans avant, effectivement, comme vous disiez, Pink Floyd... les Stones et tout ça. Et moi, c'est l'arrivée du Top 50, de Canal+, de la culture rock, comme on a appelé ça. C'est-à-dire que c'était des publicitaires qui s'emparaient du rock. Il y avait, le rock était la musique dominante, hein, mainstream, comme on dit. Et c'était pas pour son bien. Voilà, tout ce qu'on fait les Rolling Stones à cette époque-là. Tina Turner, Phil Collins. En plus, les fringues étaient atroces, les coupes de cheveux étaient monstrueuses. Enfin, rock et folk étaient dans sa plus mauvaise période. Je parle pas du début des années 80, mais plutôt du milieu et de la fin des années 80. Et voilà, le top 50, c'était une aberration. Il y avait des sons de DX7, un synthé pourri partout et tout. Et aujourd'hui, dans les fêtes des jeunes, c'est la musique qui passe. Et ils s'amusent comme des fous en dansant sur Peter et Sloan ou je sais pas quoi, ou début de soirée. Et ils me disent « Ah ouais, c'était vachement bien à votre époque. » Je dis « Mais c'est pas possible, quoi. Comment
ils peuvent dire ça ?» C'est-à-dire que quand Cure est arrivé, Joy Division, New Order, tout ça, ça vous a laissé froid?
Non, c'était autre chose, mais c'était de l'underground, ça. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je l'ai vécu, cette époque-là, c'était pas ce qu'on entendait à la radio. À part chez Bernard Lenoir, le soir, à 21h ou 22h. Et effectivement, c'est l'arrivée des Inrecuptibles qui ont pris ce créneau-là, de cette musique sombre qui venait d'Angleterre, mais qui était une réaction à la musique populaire. Parce que moi, j'aime la variété, j'aime la musique populaire. Je vous dis, j'ai grandi dans les hit-parades, mais les hit-parades des années 70 se tenaient mieux que les hit-parades des années 80. Quoi, voilà. Donc, effectivement, déçu par toute cette musique mainstream, il a fallu se tourner vers ce que vous dites, cette cold wave, etc., qui était belle par rapport à ce qu'on entendait. Mais on ne voyait ça jamais à la télé. Il y avait les enfants du rock qui en passaient un petit peu de temps en temps, mais c'était quand même... parallèle, underground. Et c'est ça qui faisait sa valeur, d'ailleurs, je crois.
Ouais, il y avait aussi Talking Heads, il y avait les Smiths.
Alors ouais, ça, c'était ça, mon plus grand choc, c'était Talking Heads à cette époque-là, oui. C'est vraiment la musique avec laquelle j'ai été en phase, l'époque de l'apparition de Talking Heads, des B-52s, de XTC, ce qu'on appelait à l'époque la New Wave, ce qui après n'a plus rien voulu dire.
On dit post-punk.
Mais aujourd'hui, on dit post-punk.
C'est encore plus flou comme catégorie.
Mais on ne disait pas du tout post-punk à l'époque. C'est ça qui est drôle. C'est arrivé récemment, l'histoire du post-punk. Il y a Yves Adrien qui avait inventé l'expression after-punk, mais ça n'a pas pris non plus. Donc oui, tout ça, c'est des termes, en fait.
Il faut signaler quand même que les Talking Heads, pour le coup, ça groove. C'est-à-dire qu'il y a des rythmiques qui reviennent, qui s'échappent, qui s'affranchissent un peu de la froideur des boîtes à rythme.
C'est marrant parce que c'était un groupe qui vient de la génération punk, du CBGB, en même temps que les Ramones, que Blondie, etc. Mais dès le début, ils essayaient de faire des rythmes. Effectivement, ils prenaient un morceau d'Al Green, Take Me to the River, etc. C'est ça qui a fait leur originalité, je crois, effectivement.
Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de Stan Cuesta qui nous parle de son livre La musique a gâché ma vie. On va faire une première pause musicale, on va écouter justement Jean Ferrat qu'on évoquait au tout début de l'émission.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, dans la ville sans sommeil, chez nous il y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Jean Ferrat, ma môme. Stan Cuesta, pourquoi avoir choisi ce morceau ?
Alors ce morceau, c'est le premier qui apparaît dans mon livre, en fait, puisque je parle de mon enfance à Créteil, donc qui est cité dans la chanson, et j'identifiais ma mère à cette chanson puisqu'elle travaillait en usine à Créteil, donc c'était un truc, et là c'est sorti exactement au moment de ma naissance, donc pour moi c'était, je fantasmais le fait que Jean Ferrat parlait de ma mère dans ce livre. Et puis voilà, pour être plus général, le livre, je me suis aperçu que je citais beaucoup de chansons, c'est pas du tout un livre de critique musicale où je m'attarde pas à dire, à parler des morceaux en eux-mêmes, ils apparaissent juste pour illustrer les histoires que je raconte. Mais en fait, a posteriori, j'ai regardé, je me suis aperçu qu'il y avait 70 chansons citées dans le livre. Donc je me suis amusé à faire une... comment on appelle ça, une playlist sur une plateforme que j'ai gardée pour moi d'ailleurs, mais enfin bon. Et j'ai choisi le premier morceau qui apparaît dans cette playlist, c'est Ma Môme, qui est la première chanson que je cite, voilà.
Jean Ferrat, Brel, Brassens, Barbara, quand le rock arrive, ils sont tous un peu complètement dépassés. Léo Ferré s'en tire un peu mieux, mais quand même, ils sont largués, quoi.
Ouais, je sais pas s'il y a eu comme deux univers parallèles qui continuaient, parce qu'en même temps, il y avait aussi la variété qui était un autre monde. Donc, ouais, c'était le monde de mes parents, c'est vrai. Et... mais Léo Ferré, il était fascinant parce qu'il a joué avec un groupe de rock qui s'appelait Zoo. Il a fait des expériences incroyables. Et moi, quand je le voyais à la télé, gamin, j'étais impressionnant. Mais il me foutait la trouille, en fait, quoi, parce qu'il avait cette espèce de mimique, tu sais, il faisait toujours des... Il clignait des yeux, il pleurait à moitié, etc. Il me terrifiait, et en même temps, j'étais fasciné, quoi.
Il avait un blouson de cuir.
Et en plus, après, il s'est mis, effectivement, blouson de cuir, ouais. Donc, et finalement, aujourd'hui, souvent, dans la chanson, il y a le temps long et le temps court, et sur le temps long, ces gens-là sont gagnants, forcément, quoi. Voilà, c'est... Aujourd'hui, des rockers se réclament de ces gens-là, de Barbara, tout le monde...
Et vous pensez que le rock français vieillit moins bien que cette variété dépassée à l'époque, entre
Le
guillemets.
Rock français, je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'ai jamais... Moi, je fais pas tellement... J'ai connu cette époque des années 80 terrifiante, où tout le monde disait, est-ce que c'est du rock ou de la variété ? Il y avait cette espèce de question qui faisait flipper tous les artistes, et n'importe quel artiste de variété se voulait rock et faisait en fait des chansons de pure variété, quoi. Donc c'était une espèce de graal comme ça, être rock, faire rock, et plus on voulait le faire. Le rock, c'est pas de mettre des grosses guitares saturées, etc. Enfin voilà, c'est comme pouvaient le faire des tas d'artistes de variété, et c'est toujours assez ridicule. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, je m'intéresse aux chansons, en fait, et que ça soit dans un style ou dans un autre, c'est pas tellement mon problème, c'est le fond qui m'intéresse. Enfin, la forme aussi, bien sûr, mais du moment que quelqu'un est sincère et qu'il y a une émotion qui passe, que ça soit Jean Ferrat, Michel Delpech ou les Stooges, je peux aimer les trois, quoi. Voilà.
En France, il y a quand même cette époque-là, Star Shooter, Taxi Girl, Marquis de Sade. Là, on sent quand même une rupture.
Oui,
puis
c'est des gens
son.
Que j'ai connus en plus, donc c'est ma génération. Moi, j'étais à Paris, il y avait, bon, effectivement, les Stinky Toys, et puis plein de groupes qui sont devenus des amis ensuite, c'est-à-dire qui sont un peu oubliés aujourd'hui dans la mouvance Taxi Girl, qui était Modern Guy, surtout. J'en parle d'ailleurs dans une des nouvelles. Suicide Romeo. Il y a eu Indochine, c'est eux qui ont raflé la mise, en fait, qui sont arrivés juste un petit peu après et qui ont raflé la mise de tous ces groupes. Mais il faut dire qu'aussi, tous ces groupes qui étaient donc juste après le punk ou qui venaient du punk sont tous se tomber souvent dans la dope, etc. Donc ah oui, je parle aussi des Guilty Razors de Tristan, qui est, voilà, il y a une nouvelle qui est consacrée à ça, voilà, qui ont ensuite fait des chansons de variété, mais très très marrantes. Lio vient un peu de ce monde-là. Enfin voilà, ceux qui s'en sont le mieux sortis ont fait des carrières dans ce qu'on appelle la variété, effectivement.
Ah, vous citez aussi Magma de Christian Vander.
Ah, ça, c'est autre chose, oui. Ça, c'est les années 70. C'est un des premiers... Enfin, non, je ne les ai pas vus à cette époque-là, mais oui, il y avait une... C'est vrai que le premier groupe que j'ai vu sur scène, c'était Ange, ce qui est assez incroyable, parce que ce n'était pas du tout la musique que j'ai aimée par la suite, mais voilà. En fait, il y avait tellement peu de choses qu'on prenait ce qui nous tombait sous la main, quoi. Ange passait dans mon lycée, je ne savais pas ce que c'était, j'ai été voir Ange. Magma, pareil. Il y avait très peu d'offres, surtout en France, quoi.
Rappelons-le, à cette époque, les concerts sont rares, les disques sont chers. C'était avant Internet, avant le DVD, avant la VHS, avant tout.
Ouais, bah, c'est ce que je disais à propos du cinéma. C'est-à-dire que quand on voulait voir un film, par exemple, de Godard des années 60, bah, il n'y avait pas de VHS, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il fallait attendre qu'il passe à la Cinémathèque ou au Quartier Latin. Et on pouvait attendre 1, 2, 3 ans avant de voir ce film. Et le jour où il passait, on se précipitait, on allait le voir et on l'avait vu une fois, quoi. Et ça conférait une espèce de valeur de trucs rares, quoi. C'est vrai que c'était... Bon, après, je sais pas trop quoi penser du fait qu'aujourd'hui, on clique et on entend un morceau qu'on a envie d'entendre, ou on voit le film qu'on a envie de voir. C'est génial. Et en même temps, ouais, je sais pas si c'est si génial que ça.
Sommes-nous destinés à aimer la musique ? Ou bien la sensibilité peut-elle être éduquée, formée et dirigée à ce point ? Le mystère reste entier.
Ça, je parle de mon prof de musique qui a été, comme mon grand cousin, a été déclencheur d'une certaine chose par le côté mythique et fantasmatique des hippies et de la musique. Là, quand je suis rentré en sixième, j'ai eu un prof de musique, Monsieur Coustet, Jean-Baptiste Say, qui était quelqu'un d'assez fabuleux, qui nous faisait amener des disques, amener nos instruments, et on écoutait aussi bien Beethoven que les Beatles ou que Chicago. Ou John Coltrane d'ailleurs, et ça m'a ouvert d'une façon incroyable. Et ce qui est génial, ça, c'est là c'est une bonne chose des réseaux sociaux, c'est que ce monsieur est toujours vivant. Je l'ai retrouvé, je lui ai envoyé mon livre et il m'a remercié. Il était très touché d'être dans le livre, quoi. Voilà. Il savait pas qu'il avait, enfin il savait parce qu'on avait fait des concerts, etc., quand on était au lycée, mais il se doutait pas à quel point il avait été important pour moi et pour plein d'autres gens de ma génération.
Il y a quand même quelque chose de décisif qui se passe à ce moment-là, c'est vous découvrez la guitare.
Oui, c'est-à-dire que je faisais du piano classique et c'était un grand drame pour moi parce que je jouais Beethoven, Schubert, Chopin, pas très bien parce que je travaillais pas beaucoup. En fait, ça m'ennuyait un peu la musique classique. J'essayais d'aimer ça, mais et surtout que moi j'étais fasciné par Deep Purple, l'orgue de John Lord par exemple, et je me disais mais je veux jouer comme ça et j'arrivais pas, je voyais pas le rapport entre Debussy et Deep Purple. Je n'arrivais pas à mettre le peu que j'apprenais en classique au service de ce que j'aimais, c'est-à-dire le rock en fait. Et c'est grâce à ce prof de piano en fait, en passant par le jazz, que j'ai commencé un petit peu à pouvoir faire le piano. Mais c'est vrai que c'était trop compliqué, donc je suis passé à la guitare, qui était le truc de base. On faisait trois accords et on chantait une chanson, quoi. Donc effectivement, là, j'ai appris totalement en autodidacte.
La guitare électrique, faut préciser.
Classique d'abord, puis électrique, bien sûr. C'était le Graal d'avoir une guitare électrique complètement pourrie, avec les cordes très loin du manche qui faisaient mal aux doigts, des amplis de fortune complètement nazes. Enfin, on a du mal à se rendre compte aujourd'hui quelle galère c'était de faire de la musique, de faire un groupe, de répéter, trouver un endroit pour répéter, d'avoir les amplis qui marchent, qui fassent plus de bruit que la batterie, ce qui n'était pas souvent le cas. On se faisait virer, on répétait dans des garages en Paris où je me faisais virer par le gardien, enfin des trucs. C'était, et alors, je ne parle pas de faire un disque, c'était un truc très très difficile. Il fallait aller en studio, il fallait mettre de l'argent pour pouvoir enregistrer avec des magnétophones, etc. Aujourd'hui, n'importe qui a un ordinateur chez lui, il fait un disque, quoi. C'est vraiment un... Tout a changé.
Mais d'ailleurs, les groupes ont disparu.
Alors, je ne sais pas, il y en a encore un petit peu, mais ça n'est plus une nécessité. Alors que on ne savait même pas se réenregistrer, faire du re-recording, comme on appelle. C'est-à-dire, après, j'ai fait ça, enregistrer tout, faire une chanson où j'enregistrais tous les instruments. Mais à l'époque, si on voulait jouer du rock, il fallait avoir un groupe. C'était une nécessité. Aujourd'hui, effectivement, avec les boîtes à rythme, les séquenceurs, etc., on n'en a plus besoin. Ce qui fait que la musique a complètement changé. En fait, la technologie a énormément changé la musique dans ces 40 dernières années.
Alors, il y a le rock, et puis très vite, il y a les drogues, enfin le sexe, la sainte trilogie des années 70, d'une certaine jeunesse.
Ouais.
C'est important, les trois liés, c'est
oui,
ça qu'il
oui,
faut
oui,
dire.
Oui, c'est vrai, parce que... Alors ça, ce que je raconte aussi, bon, le 16e était un an... J'ai grandi dans le 16e arrondissement après avoir été à Boulogne, donc je venais d'une banlieue assez pauvre, et j'arrivais dans le 16e en étant pauvre dans un quartier riche. Et j'ai jamais effectivement vu autant de drogue que dans les milieux favorisés des années 70 dans le 16e arrondissement. Parce que les gens étaient assez décadents, ils avaient des parents qui les laissaient totalement libres, avec des armoires à pharmacie remplies, des bars remplis d'alcool, etc. Et c'était assez terrible. Et c'est vrai que pas mal de musiciens de rock que j'ai connus qui viennent de cette époque-là venaient des beaux quartiers. Bizarrement, alors qu'en province, c'était tout à fait différent. Donc il y avait cette opposition entre Paris et la province aussi. Enfin, on ne dit plus la province maintenant, on dit je ne sais pas quoi, les territoires.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de Stan Cuesta qui nous parle de son livre La musique a gâché ma vie. Donc vous avez la guitare, le rock, mais vous avez donc, vous venez d'en parler, un bagage musical qui s'appuie sur le piano, Debussy, Forêt, Ravel, le jazz, il y a l'éblouissement John Coltrane. Mm-hmm. Ce qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a un lien très fort entre musique savante et musique populaire. Des échanges réciproques, et ça depuis toujours.
Ouais, mais alors bizarrement, ce qui à l'époque était considéré comme la musique savante dans le rock, c'était vraiment pas ce qui m'intéressait. Enfin, quoique, j'ai eu une période aussi. C'était ce qu'on appelait le rock progressif, c'est-à-dire les orchestres symphoniques avec Emerson, Lake and Palmer. Il y avait un groupe que j'aimais beaucoup dans cette mouvance-là, c'était Procol Harum, qui était un groupe assez fascinant. Mais tout ce qu'on a appelé le rock progressif, Yes, tout ça, quoique, j'ai eu une petite période Genesis, Magma, Frank Zappa aussi, qui était un truc, oui, Frank Zappa dans genre musique savante, c'était lui qui il a fini par faire des symphonies à l'IRCAM, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu, avant le punk, c'est-à-dire c'était juste avant 76-77, on était plongé dans, il fallait que la musique évolue, il fallait qu'elle progresse, d'où le nom rock progressif. Et donc il y avait d'un côté le jazz rock, qui était une musique, alors John McLaughlin, Mahavishnu, tout ça. Et on écoutait les disques en se prenant la tête, en essayant de trouver les gens les plus virtuoses qui faisaient les musiques, les mesures les plus compliquées, des mesures asymétriques, etc. Enfin, et puis, tout d'un coup, sont arrivés les Sex Pistols et tous les groupes qu'on a eu, très peu en France, mais quelques-uns. Et puis, après cette vague, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout une opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu les punks d'un côté et les hippies de l'autre, comme on le raconte, ou les babacools, mais c'est les mêmes gens, quoi. Moi, j'écoutais Frank Zappa et Magma, et l'année d'après, j'écoutais les Sex Pistols et les Clash, quoi. Et c'était juste un changement d'environnement. Et même à la limite, je vais dire mieux, c'est que j'écoutais les deux, en fait. On écoutait tout en même temps, quoi. Voilà. Et Gainsbourg aussi, et plein de choses. Donc, ce qu'on veut voir maintenant comme des batailles de chapelles, peut-être que plus tard, il y a eu des chapelles qui se regardaient de travers, etc. Plus dans les années 80. Mais quand le punk est arrivé, c'était une bouffée d'air frais, je veux dire, avec après, Talking Heads et tous ces trucs-là que j'ai adoré. Mais ça ne m'empêchait pas de continuer à écouter, effectivement, du jazz ou presque de la musique progressive, quoi.
Mais la dérive de maestria, de virtuosité, c'est déjà un travers dans lequel était tombé la musique classique, oui, dite savante au 19e siècle.
Oui.
Le rock a subi aussi les mêmes dérives, et le punk a été une espèce de retour à une forme de simplicité, d'immédiateté.
On revenait au rock'n'roll, oui.
Ce qui primait, c'est que l'intention, le sentiment, l'émotion primait sur la technique et la virtuosité.
Oui, c'est vrai. Et ça, c'était vachement bien. Après, je n'aime pas du tout ce qui est devenu le punk par la suite. C'est-à-dire qu'une espèce de chapelle, justement. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, les gens. Mais le punk not dead, etc. Donc, où ça devient une espèce d'embrigadement. Il faut absolument être primaire, faire une musique. Enfin, voilà. Tous les punks, moi j'ai écrit un bouquin sur le punk américain qui est en fait ce qui me passionne le plus, c'est-à-dire tous les groupes effectivement issus du CBGB, ouais, et Television, qui est un de mes groupes préférés, Patti Smith, etc., qui étaient des gens qui adoraient le jazz. Television, c'était un fan de John Coltrane, justement. Donc il y a
Iggy Pop aussi.
C'était beaucoup plus, bah oui, l'album de Stooges, Funhouse, qui est avec du free jazz, avec un saxophoniste absolument dingue, etc. C'est ça qui me plaisait, moi, c'est l'ouverture sur un, pas du tout le côté bas du front, simpliste, etc. Ce que n'étaient même pas les Anglais, d'ailleurs, parce que John Lydon, Johnny Rotten, on s'aperçoit qu'il aimait Can, O'Quinn, enfin des trucs, bah, évidemment, de son époque, parce qu'ils ont grandi.
Il écoutait
avec
aussi
ça.
Johnny Cash, beaucoup de reggae, il avait une grande ouverture.
Oui, voilà. Donc, on réécrit l'histoire beaucoup dans la musique et dans le rock en particulier. Donc,
Si la cancel culture était arrivée un peu plus tôt, les musiciens blancs du XXe siècle n'auraient probablement pas eu le droit de jouer du jazz, du blues et du rock. On l'a échappé belle.
Ouais, alors ça, je parle de ça à propos d'un morceau de Debussy que j'ai joué qui s'appelle Le Petit Nègre, qui est aujourd'hui interdit dans pas mal d'universités américaines, à cause de son nom, Little Negro. C'est vrai que c'est assez terrible, parce que quand Debussy a écrit ça, bah, c'était pas du tout... il s'intéressait à la musique noire et on parlait de nègre à l'époque. Bon, on n'arrive pas à remettre les choses dans le contexte d'une époque passée. Ça, c'est un grand travers de l'époque, je pense. Et en ce qui concerne le rock et le blues, mais moi, je me dis, un jour, ça va péter, quoi. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir, quelqu'un va sortir un truc sur le fait que tous les bluesmen parlent de pédophilie, quoi. C'est-à-dire que Good Morning Little Schoolgirl, tous ces morceaux, Hey Joe de Jimmy... Alors, c'est soit des féminicides, Hey Joe, c'est quand même un féminicide, soit des mecs qui vont chercher les petites ados de 14-15 ans à la sortie de l'école. C'est monstrueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait pas faire ça, mais ça m'étonne que personne ne se penche là-dessus, quoi. Que personne ne dise non, il faut interdire tout le blues et tout le rock'n'roll, quoi. Parce que c'est que ça. Que ça. Et Led Zeppelin a repris les trucs de blues, etc. Et comme, alors en France, peut-être que personne ne comprend rien aux paroles, donc on s'en fout un petit peu.
Il y a Gainsbourg quand même, et puis il y a des chansons françaises qui aussi évoquent les adolescentes.
Vrai. Gainsbourg,
ça en est bien tiré, il a échappé à la cancel culture.
Ouais. Et alors peut-être que le fait que ça soit des choses du passé, on accepte quand même un petit peu. Mais moi, je pense qu'un jour, il va y avoir quelqu'un qui va se pencher là-dessus et que ça va, on va dire non, mais il ne faut plus écouter ça, c'est plus possible. Et c'est terrible parce que. Effectivement, il y a des textes qui sont assez incroyables quand on se penche sur les textes de blues, par exemple.
Alors, revenons à votre parcours personnel. Vous découvrez la guitare, vous composez, vous chantez. Mm-hmm. Et en même temps, vous êtes doué pour les études. Hein. Vous avez fait maths sup, maths spé, école d'ingénieur. Et alors commence pour vous une espèce de schizophrénie. Le jour, vous vous destinez à une carrière de cadre sup.
Ouais.
Et le soir, vous faites de la musique et vous sortez.
Ouais. Oui, ça a été un des grands drames de ma jeunesse, de mon adolescence et de ma vie de jeune adulte. C'était que j'étais effectivement tiraillé là-dedans. J'ai commencé par faire de la musique, faire des groupes. J'étais en terminale par là. Et puis, par pression familiale, j'ai accepté de faire ces études dont vous parlez, maths sup, maths spé, qui sont terrifiante, enfin, vraiment très très dure. C'est un système typiquement français, je crois que ça n'existe nulle part ailleurs, d'un élitisme incroyable. C'est-à-dire que ce sont des concours, donc chaque élève qui est à côté de vous est un ennemi potentiel, puisqu'il peut vous prendre la place de l'école où vous voudriez aller. Et moi, j'ai fait ça juste parce que j'étais doué en maths, mais presque pour mon malheur, quoi. C'était assez terrible. Et donc j'ai fait, et j'étais obligé d'arrêter la musique à cause de... Ce sont des études tellement difficiles qu'on n'a plus de temps de rien, quoi. Et donc j'ai perdu quelques années. Et les gens avec qui j'étais en terminale avant de faire ces études, qui faisaient de la musique avec moi, sont devenus, pour certains, professionnels. On fait des groupes qui ont marché, etc., ou musiciens de studio. Et moi, j'étais terriblement frustré de ça. Donc j'ai commencé dans la vie active comme ingénieur. Et puis... J'ai craqué, c'est-à-dire que j'ai, comme vous dites, de plus en plus refait de musique, mais j'avais perdu plusieurs années. Et j'ai mis plusieurs années à rattraper le coup et à refaire de la musique de façon professionnelle et à finalement arriver par démissionner et arrêter ma carrière d'ingénieur, ce qui était un truc qui n'était pas envisageable par tout mon entourage. C'est-à-dire que j'ai quitté, et c'est pour ça le titre un peu ironique de mon livre « La musique a gâché ma vie ». C'est-à-dire que c'est comme un virus qui m'a repris, je suis plongé dans la musique, et j'ai abandonné cette carrière fructueuse qui me permettait de très bien gagner ma vie et qui fait qu'aujourd'hui je serais très riche, quoi. Enfin, très à l'aise, ce que je ne suis pas.
Donc vous étiez quand même doué pour les études, mais à la classe, vous préfériez les clashs.
Oui, bah c'est-à-dire que j'étais ce mec qui énerve les profs, c'est-à-dire le bon élève qui traîne avec les mauvais, quoi. qui fout le souk dans la classe, parce qu'il a des facilités. Et donc, je me faisais engueuler sans arrêt. Ouais.
Autre forme de schizophrénie possible, est-ce qu'on peut à la fois faire de la musique et écrire sur la musique en
alors,
même temps?
Oui, ça c'est intéressant comme question. Bah, le fait est que j'en fais plus.
J'ai arrêté. Non, mais à l'époque.
Il y a eu un petit moment, mais j'ai commencé la critique musicale très tard en fait, presque au moment où j'arrêtais la musique. Donc il y a eu un petit moment de recouvrement où j'ai sorti mon album et j'écrivais déjà dans Rock et Folk. Et Manœuvre m'a dit, mais tu peux continuer, etc. Et j'ai dit, non, j'arrête. Et puis, en fait, quand ça a commencé à plus trop bien marcher dans la musique, eh ben, petit à petit, j'ai arrêté la musique et j'ai repris le journalisme et l'écriture de bouquins aussi. Et c'est devenu finalement mon activité principale, quoi. Donc, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de recouvrement. Il y en a qui le font, hein, il y en a qui le font très bien. Bah, ne serait-ce qu'à Rock et Folk, il y a mon collègue Jérôme Soligny qui... Mais pareil, il a du mal quand même à sortir beaucoup de choses. Mais il a toujours fait de la musique pour les autres, fait des chansons pour les autres, etc. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que... À un moment, je me disais, bon, je ne chronique pas les Français, parce que ce risque d'être des amis ou des gens que je croise, etc. Et puis finalement, maintenant, tout ça, c'est un peu, je dis, bon, allez, s'il y a un mec que j'aime bien en France, j'en parle, même si c'est un ami, c'est pas grave, quoi.
Quel rapport vous faites entre composer un morceau et rédiger un article ou une chronique ou un livre sur la musique?
Alors, bah, c'est un exercice très différent, mais c'est vrai que, bah, je vous dis que je viens de cette époque où le critique de rock avait des ambitions littéraires. Pour moi, écrire un article dans Rock et Folk ou dans Télérama ou partout où je peux écrire, c'est une œuvre d'art. Pour moi, c'est une œuvre d'art. C'est-à-dire que j'essaye d'en faire le plus bel objet possible pour moi. Et là, maintenant, j'en suis arrivé à un point, parce que ça fait des années que je fais ça, et j'ai cessé d'essayer de suivre l'actualité musicale. Je laisse ça aux plus jeunes que moi. Donc maintenant, je ne me sers, le mot, je l'utilise à bon escient, je ne me sers de cette profession, entre guillemets, que pour me faire plaisir à rencontrer les gens que j'ai envie de rencontrer. C'est-à-dire que là, les derniers articles que j'ai faits sont des gens tous avec une carrière très établie que j'écoutais quand j'étais gamin et que grâce à ma position dans Rock et Folk, je peux rencontrer. Donc ça a été David McNeil, sur qui j'ai fait un article dans Rock et Folk, qui est mon héros depuis toujours. Gérard Manset, qui est dans le prochain. Michel Houellebecq, sur qui j'ai écrit ce mois-ci. Robert Charlebois. Enfin voilà, des gens de la génération que j'écoutais quand j'étais jeune. Et j'en profite pour... Et je fais du lobbying auprès du rédac chef de Rock et Folk. Il faut absolument faire un article sur David McNeil, qui est le truc que personne n'attendait, quoi. Et voilà. Et quand j'ai réussi à faire ça, et que je fais 4 pages où je suis super content de ce que j'ai fait, etc., je me dis, voilà, ça... Et pour moi, donc, c'est comme d'écrire une nouvelle, comme d'écrire un... C'est vraiment pas... Après, il ne faut pas avoir l'ambition d'en vivre, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, si je devais être journaliste pur, faire que ça pour gagner ma vie, je ne pourrais pas faire ça. Là, je passe énormément de temps sur un article, je le peaufine, voilà. Et à l'arrivée, je gagne à peine de quoi payer mon loyer. Donc, il faut faire plein d'autres choses. Je comprends que les journalistes musicaux professionnels qui ne font que ça doivent écrire partout, dans tous les sens, et ont peut-être moins cette envie de faire un objet parfait, quoi.
Il y a aussi le fait qu'ils reçoivent énormément de choses. Il y a une actualité qui est pressante.
Oui.
Et ils doivent être très réactifs. Et souvent, ils n'ont pas le recul ou pas le temps nécessaire.
Je me trouve confronté à ça, puisque maintenant, on ne reçoit plus de disques. Mais c'était pareil quand on recevait des disques, mais il y en a de plus en plus. On reçoit des liens par mail pour écouter des albums. Donc là, ça m'a fait le cas vendredi dernier. Parce que je ne sais pas pourquoi, vendredi particulièrement. J'ai compté, parce que j'ai reçu 30 liens d'albums en une journée à écouter. Et donc... Après, les attachés de presse ou les artistes m'écrivent directement en disant oh, « Tu as écouté mon disque, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Et en fait, je dis « Mais non, j'ai pas écouté, je peux plus. » Moi, ça fait, je sais pas, 40 ans que je suis l'actualité musicale. À un moment, je dis « Non, c'est bon. » C'est ce que je disais, je laisse ça aux jeunes qui ont envie de suivre. Et maintenant, si je rate un mouvement, tant pis, je m'en fous, quoi. C'est bon.
Alors, ce choix que vous avez fait finalement pour le rock, c'est une vie consacrée au rock. Vous l'avez payé cher. Hein. Mmh. Vous êtes retrouvé vraiment dans la dèche. Après, on pourrait presque dire à la rue, dans une situation très, très difficile.
J'aurais pu tomber à la rue un moment, oui. C'est toujours quelque chose qui... Ouais. Et j'en connais d'autres dans mon cas qui sont très connus. Hein. On les connaît, ouais. Qui sont dans des situations très, très délicates.
On va marquer une seconde pause musicale. On va écouter « Héritage » de Mendelssohn.
Dans un soins, ce sont les seules choses qui nous appartiennent à nous. Je te mets rien. Si toutes ces choses existent encore, au jour, au jour, je disparaîtrai.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman, en présence de Stan Cuesta, qui nous parle de son livre « La musique a gâché ma vie ». Stan, pourquoi vous avez choisi ce morceau de Mendelssohn qui s'appelle « Héritage » ?
Oui, alors, c'est pour plein de raisons. D'abord, bon, bah, Mendelssohn, c'est mon groupe de rock français. On parlait de rock français tout à l'heure, c'est vrai que j'avais oublié. Mendelssohn, c'est le meilleur. C'est le meilleur groupe qui s'est sabordé avec cet album, justement, qui s'appelle « Le dernier album ». Je les suis quasiment depuis le début. Pascal Boisiz, donc le chanteur et auteur-compositeur, est devenu un ami très proche. Et ce dernier album est magnifique. Et là, cette chanson « Héritage » est une chanson qui me bouleverse parce que c'est quelque chose que j'aurais pu et que j'aurais voulu écrire, quoi. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il parle à ma place. Et il dit vraiment tout ce que je voudrais dire. À tel point que j'ai... C'est la dernière chanson dont je parle dans le recueil et je l'ai citée quasi intégralement et ça se termine là-dessus. Parce que ma dernière nouvelle est un retour dans le 16e. En fait, je suis parti depuis longtemps et je me promène dans les rues du 16e où je regarde un peu tout ce que j'ai connu gamin et je vois que les choses qui ont changé, les choses qui n'ont pas changé. Et je pense donc à cet héritage parce que j'ai aucun héritage. C'est-à-dire que j'ai tout perdu ou rien possédé, ou le peu que j'ai possédé, je l'ai perdu ou je l'ai vendu, etc. Et j'ai des enfants, moi-même, comme lui. Et donc là, il s'adresse à son fils en disant « Tiens, voilà, l'héritage, c'est notre nom bizarre, étranger, moi aussi. C'est un opinel de grand-père, tout, voilà. » Et c'est ce que je pourrais dire à mon fils, c'est-à-dire que je n'ai rien à lui transmettre de matériel. Et ça rejoint ce qu'on disait sur la situation catastrophique de certaines personnes qui ont choisi mon mode de vie. Alors, ça a l'air dramatique comme ça, ça ne l'est pas dans la vie de tous les jours, mais au fond, par rapport à tous les gens qui ont ces grandes familles, ces choses avec des nombreux enfants, nièces, maisons qui se transmettent, patrimoine, etc. Moi, je suis dans un univers parallèle où il n'y a rien, effectivement, comme il dit, rien. Voilà, c'est une chanson qui me bouleverse. Ouais.
Mais quand on n'a rien, est-ce que ce n'est pas la chance, l'opportunité de transmettre quelque chose qui est tout ?
Bah, on transmet autre chose, effectivement. Donc on essaie
qui est bien plus important qu'un appartement ou qu'une maison sur la côte.
Oui, oui, on essaie de transmettre un goût pour la beauté, pour l'art, des choses comme ça. Mais on ne se rend pas tout de suite compte de si ça marche. C'est-à-dire que mon fils, par exemple, n'écoute pas de rock et n'écoute pas de chansons. Il n'écoute que du rap, donc c'est assez drôle, quoi. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai transmis ? Bon, ma fille, c'est différent. Elle aime effectivement des choses. Elle aime aujourd'hui des choses comme Johnny Mitchell et Crosby, Stills & Young. Donc là, je me dis, ah, c'est étonnant.
Mais vous
n'avez
pas préjugé de ce qu'ils vont réécouter
oui,
dans quelques
voilà,
années.
Ça, et ça va,
parce que nous,
ça va
la musique de nos parents, au début, on ne la supportait pas. Bien sûr. On a choisi le rock précisément pour ça, pour se rebeller contre eux et contre leur goût et tout ce que ça représentait.
Bien sûr,
là, on voit par exemple le rap. On a voulu en faire la musique dominante qui a remplacé le rock, ce qui n'est pas tout à fait exact dans les ventes objectives. Et on s'aperçoit que le rap, d'abord, c'est chanté maintenant, avec des gens qui ont des cheveux longs. Donc c'est plus tellement du rap.
Oui.
Et ensuite, le rap est en train de chuter au niveau vente aux États-Unis, donc on sait que ça va arriver en Europe aussi. Donc oui, voilà, c'est ce qu'on appelle des modes. Vous êtes bien placé pour savoir ce que sont les modes.
Bien sûr, et puis aujourd'hui, je vous parle très... Et puis je parle dans mes livres très, très facilement de Jean Ferrat, de Georges Brassens, ou de choses comme ça. Mais il y a 20 ans, quand j'étais dans le rock'n'roll à fond la caisse, c'était pas aussi facile. Quoique, sur mon album que j'ai fait dans les années 90, j'ai repris déjà une chanson de Jean Ferrat quand même, donc j'essayais quand même toujours de maintenir le cap. Mais oui, bien sûr, on finit par aimer ce dans quoi on a grandi. C'est sûr qu'il y a une transmission dans ce sens-là, oui.
Vous avez cité Pascal Boisis de Mendelssohn. Pour vous, le dernier truc bien en France, c'était Lithium. C'était donc Dominica, Diabologum, Programme, Expérience.
Ah, c'est vrai que c'était une époque assez enthousiasmante. Il y a eu des belles choses avec ça. Bon, après, je ne veux pas préjuger de ce qui se passe de plus récemment et aujourd'hui. Bon, après, là, il a sabordé Mendelssohn, mais il a fait un groupe qui s'appelle Bruit Noir, qui est très, très violent et intéressant et provoquant et fascinant. Enfin, je veux dire, c'est aller voir Bruit Noir sur scène, presque plus qu'écouter ses albums, mais aller les voir sur scène, c'est incroyable, parce que ça tient autant du stand-up que de la musique, puisqu'il fait des longues digressions entre les morceaux. Il a un talent incroyable, puis il est très... Je ne veux pas dire politisé, parce que c'est plus que ça. C'est plus que ça. Il est surprenant, ce garçon. Voilà, c'est quelqu'un de très doué. Ouais.
Mais il a beaucoup d'humour.
Et il a beaucoup d'humour, bah, sur scène et dans la vie aussi. Ouais, oui, non, bien sûr. Mais ses chansons sont souvent très, très désespérées, ce qui n'a évidemment pas aidé à toucher un grand public. Mais ça, c'est son grand drame. Il aurait voulu vendre plus de disques. Et en même temps, quand il fait un album, parfois, où il y a une chanson qui dure une heure, donc on dirait qu'il cherche à être dans le Guinness Book des records, quoi. Voilà, c'était sur un album précédent. Une chanson qui, je crois, qui fait une heure.
Oui, bien sûr. Enfin, 53 voilà. minutes, pour être tout à fait exact.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et qu'on n'écoute pas tous les jours, c'est sûr. Mais voilà, c'est de l'art, c'est autre chose. Dans tous les arts et en musique, et dans musique populaire particulièrement, il y a le temps long et le temps court, quoi. Et le temps court, c'est le hit parade, c'est les disques qui se vendent et qu'on aura oublié un mois plus tard. Et puis le temps long, bah, c'est des gens qui souffrent, qui ont du mal, qui n'ont pas quelques centimes à la SACEM, comme il dit dans Héritage, quoi. C'est magnifique. Et effectivement, on reçoit tous des bulletins SACEM où on touche 0,36 euros, quoi. Et c'est...
Quand on n'est pas irrépartissable.
Oui, bah, irrépartissable, je crois que c'est... en dessous de 50 ou un truc comme ça, donc on touche rien en fait, quoi, et voilà. Et on voit ça qui... Enfin bon, voilà, c'est... Mais on se dit... Alors à un moment, on se disait ça avec Pascal, on travaille pour la postérité, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu déprimant de se dire qu'on travaille pour la postérité.
Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous, la postérité?
Oui, voilà. Et puis la gloire post-mortem, c'est un peu sinistre quand même, voilà.
Alors vous n'êtes jamais mis au rap et à la techno?
Non, j'ai beaucoup de mal. Alors j'ai aimé des choses, hein, en électro. Je me souviens que j'avais interviewé Underworld, mais c'est déjà un truc d'il y a une éternité, quoi. Ce groupe qui venait du rock. Ouais. Il venait du rock d'ailleurs, c'est pas un hasard si je m'intéresse à eux. Et en rap, pareil, j'ai aimé les débuts de toutes les productions californiennes, Dr. Dre, enfin Snoop, etc. Et après, j'ai décroché vraiment, c'est pas ma culture. Et le rap français, j'accroche pas du tout. Enfin, des fois, je tombe sur un morceau d'Orelsan et je me dis, ah oui, ce mec a du talent, effectivement. S'il y en a un à peut-être sortir du lot, je pense qu'il... Mais j'y connais rien, je peux vraiment pas parler de ça, quoi.
Et puis Jean-Louis Murat, à la fin de sa vie, enfin, il savait pas que c'était la fin de sa vie, mais dans une de ses dernières interviews, bon, lui, il était connu pour taper sur tout le monde et être très virulent et assez méchant avec ses confrères. Et il rend hommage à Orelsan, il dit oui, c'est lui, il est bien fou comme il faut, et c'est lui qui écrit le mieux, c'est lui qui prend un peu le relais de cette chanson française que Murat a poursuivi toute sa vie sans jamais vraiment l'atteindre.
Ouais. Mais Murat, c'était un mec super, hein. Moi je l'adorais, et je veux dire...
Ouais. Une œuvre unique et très, très
prolifique. Après, c'est vrai que c'était un gros provocateur, qu'il adorait dire des saloperies sur tout le monde, c'est pour ça qu'il était souvent invité, il ne pouvait pas s'empêcher. Mais au niveau culture musicale, et bon goût, enfin bon goût, c'est absurde de dire ça, mais je veux dire, il savait quand un mec était bon et qu'un mec n'était pas bon, quoi, et on avait quasiment toujours le même avis. Donc y a des gens comme ça. Et on n'est pas beaucoup, hein, c'est Boisis, Comlade, Murat, des gens comme ça.
Les mauvais caractères, quand même.
Aussi souvent, ouais. Ouais, c'est normal.
Murat, c'est une œuvre assez conséquente, c'est plus de 30 albums, je crois.
Ouais, j'ai pas suivi la fin, en fait. J'ai du mal, faut que je m'y mette maintenant. Ouais.
Le dernier concert qui vous a marqué, c'était qui?
Alors ça, c'est très difficile comme question, parce que j'en ai vu beaucoup des concerts dans ma vie, et maintenant j'ai tendance à ne plus trop y aller parce que je m'ennuie très vite dans les concerts. Alors j'ai vu Bruit Noir sur scène, c'était super, mais c'est toujours super, je les ai vus plein de fois. Et j'ai vu aussi, bon, c'est souvent des amis, parce que les gens que j'aime finissent par devenir mes amis. J'ai vu Comlade à Beaubourg. c'était la fermeture de Beaubourg. Bicoz avait loué Beaubourg pour 24 heures. Et il a fait un concert à ce qu'il appelle à quatre pianos, c'est-à-dire ils sont quatre et il fait ses morceaux. Il reprend aussi des morceaux de rock à sa façon, notamment, je crois que c'était Egyptian Reggae de Jonathan Richman ou je ne sais plus, enfin voilà, ou Paranoid de Black Sabbath, enfin des trucs correctement avec ses pianos, plus ou moins piano joué et tout. Voilà, comme là, c'est un mec que j'adore et en concert, c'est toujours fabuleux. Ouais. C'est peut-être celui-là, le dernier que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé.
L'artiste, je ne vais pas vous demander votre artiste préféré parce que c'est une question un peu idiote, ouais. Mais celui que vous écoutez le plus, vous vous rendez compte, tiens, j'y reviens tout le
Alors,
temps.
En fait, j'écoute, j'ai beaucoup, beaucoup de... Mais je m'aperçois que j'écoute de façon utile maintenant parce que je fais beaucoup de bouquins sur des discographies complètes. Donc j'ai fait un Beatles récemment qui m'a fait réécouter tout, non seulement les Beatles, mais leur off-solo et les choses qu'ils ont produites et auxquelles ils ont participé. Donc j'ai passé quasiment un an avec les Beatles, ce qui est un peu malsain en 2026, c'est bizarre, quoi. Et j'ai fait la même chose avec Neil Young récemment. C'est-à-dire que c'est des livres que j'avais déjà écrits, mais que je réédite... 5 ou 6 ans après, aux éditions du Layer, des gros bouquins. Et Neil Young, en 6 ans, avait publié 36 albums, je crois, entre les fonds de tiroir, les nouveautés, etc. Donc j'ai tout réécouté, puis j'ai rajouté des choses auxquelles il avait collaboré, etc. Donc en fait, et quand je fais un article pour Rock & Folk, j'écoute tout. C'est-à-dire que là, je fais Manset, donc je suis en train de réécouter tout Manset. Donc c'est par grosses vagues, comme ça, soit mois par mois pour Rock & Folk, donc j'écoute tout Manset, j'écoute tout David McNeil, soit par année pour un bouquin, donc j'écoute tout Neil Young. Mon gros projet, mais que j'ai depuis une éternité, c'est de faire la même chose avec les Beach Boys, sauf que mon éditeur se fait tirer l'oreille parce qu'il a l'impression que ça n'est pas assez vendeur. Voilà. Alors j'ai du mal à le persuader du contraire. Dominique, si tu m'entends, pense à moi. Voilà, l'apothéose de mes bouquins sur la musique, parce qu'au bout d'un moment, je commence à en avoir un peu marre d'écrire sur les... Donc je peux continuer plutôt à écrire des fictions et des choses comme ça. Mais si je dois encore en faire un sur un groupe, ça serait les Beach Boys, ouais, une discographie complète.
Et est-ce que vous avez envie de continuer dans la veine biographique ?
Oui. Enfin,
ou en tout cas romanesque.
Oui, voilà. Enfin, après, il y a des gens qui me parlent d'autofiction. Enfin, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Parce qu'en plus, moi, je suis totalement illettré, si je puis dire. Je n'ai pas fait du tout d'études de lettres. Donc, je n'y connais pas grand-chose en histoire de la littérature. Autre, je suis un peu autodidacte dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que j'écris toujours à partir d'une expérience personnelle. Tout n'est pas vrai dans ces nouvelles que vous avez là. C'est vrai que c'est à... connotation autobiographique, mais il y a des choses où je me suis laissé aller à fantasmer un petit peu plein d'aventures.
La cougar, c'est réel ou pas ?
La cougar, ça part d'une histoire réelle qui ensuite dérive sur un fantasme qui n'a pas vraiment pris réalité. Mais c'est vrai que c'est celle qui est le plus... qui dérape le plus dans la... voilà. Mais j'ai plein de projets et je veux écrire beaucoup sur... pas spécialement ma vie, mais sur des choses. Alors, j'ai un truc sur la vie matérielle, sur les objets. Ça me passionne. J'ai relu les choses de Georges Perec, là, et ça m'a vraiment boosté. J'ai un truc sur le cinéma. J'ai pas mal de choses dans les tiroirs, ouais. Il faut que je trouve le temps.
Merci, Stan Cuesta, d'être venu nous parler de votre travail d'écrivain, d'auteur, d'éditeur aussi. Vous reviendrez nous parler de vos prochaines productions très prochainement, j'espère. Merci beaucoup à René Clancy d'avoir assuré le son pour nous. Si vous aimez Aligre FM, si vous voulez supporter sa liberté, son indépendance, vous pouvez faire un don, vous allez sur le site et vous pouvez participer à cet ouvrage de liberté que nous continuons à poursuivre. Pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine avec François Moreau-Martinez pour son livre « Le meilleur café d'Amérique ». Merci et à très bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.